Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons étudier quelque chose au sujet de la foi. Et on va lire Romains chapitre 10, verset 17, s'il vous plaît, dans vos Bibles, Romains 10, 17. Je lis. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen.
Amen. Vous pouvez vous asseoir, il faut laisser.
Je vous parlais, il n'y a pas tellement longtemps, au sujet du passé, qui est derrière, au sujet du futur, qui est un mystère, et au sujet du présent, qui est un cadeau. D'ailleurs, on dit le présent. Le mot présent, ça veut dire cadeau. D'accord ? Et le temps présent, c'est un cadeau de Dieu pour vous, mais ce n'est pas un cadeau qui est inutile. C'est un cadeau qui a une valeur et qui peut être utilisé. Le temps, c'est quelque chose de très important, le temps présent. Jésus veut que vous soyez au présent, parce que lui, il est au présent. Il a dit « je suis ». Il ne dit pas « j'étais » ou « je serai ». Non, « je suis ». Il est toujours au présent. Alors, cessez de penser par rapport au passé, cessez de penser au passé, cessez de penser de tout faire par rapport à l'avenir que vous envisagez. Vous n'êtes pas dans le passé. Vous n'êtes pas dans le passé parce que dans le passé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour la simple et bonne raison que le passé, ça n'existe pas. Ça a eu existé. C'est Fernand Reynaud qui dit ça. Hein? Mais ça n'existe plus, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, c'est passé. Alors, vous me direz, oui, mais je vis dans les conséquences du passé. Alors là, ça, c'est bien vrai, n'est-ce pas? On vit dans les conséquences plus ou moins heureuses de notre passé. Mais je vous pose la question, pourquoi vivre mal dans le temps présent ces choses-là? Pourquoi les vivre mal? Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Pourquoi? Si vous le vivez mal, mes frères et sœurs, si vous vous traînez dans votre présent, parce que vous vivez à cause des conséquences malheureuses de ce que vous avez vécu dans le passé, eh bien, dans le futur, votre moment présent, là, maintenant, eh bien, il deviendra aussi du passé, et il deviendra aussi un passé malheureux, qui va s'accumuler à tout votre passé malheureux, et puis vous allez arriver au bout de la ligne, et puis vous regarderez en arrière, et tout ça, ça sera du malheur. Il faut mettre un terme, une fois pour toutes, il faut... Comment on dit ? Inverser la vapeur. Vous me direz, c'est facile à dire. Oui, mais il faut bien que quelqu'un le dise une fois. Il faut arrêter avec cette histoire du passé. C'est pour ça que Jésus nous conseille, nous dit, nous ordonne, nous invite clairement à vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est pas tout comprendre. On ne comprend pas tout ce qu'on vit dans le présent. Dieu ne nous demande pas de comprendre tout ce qu'on vit dans le présent. Mais vivre par la foi, c'est se reposer sur le Seigneur, c'est s'appuyer sur le Seigneur, c'est se sentir caché dans la forteresse que Jésus est. Il a dit, nous lisons, tu es ma forteresse. Hein? Alors nous nous cachons dans la forteresse, c'est-à-dire là nous nous sentons à l'abri. Quand on a la foi, on se sent à l'abri, on se sent protégé, on se sent en sécurité. Il n'y a rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire une circonstance? Rien si vous êtes en Dieu, si Dieu est en vous. Même si dehors les loups hurlent, quand je dis en dehors, votre esprit, il est en vous. Et en dehors de votre esprit, c'est déjà votre corps. Peut-être votre corps hurle, peut-être qu'il souffre. Mais même s'il souffre, même si c'est difficile, nous devons marcher par la foi, aller de l'avant par la foi, vivre le moment présent dans la foi, que toutes choses sont bien, que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne pas chercher dans le passé, fouiller, se culpabiliser, se rendre malheureux avec ça. La Bible dit que Dieu a effacé toute chose et nous voilà tels que nous sommes maintenant. La foi, c'est croire. Et croire, c'est une acceptation intellectuelle. Alors, je sais que beaucoup de gens me disent que je cherche toujours les choses intellectuelles dans la parole de Dieu. Eh bien, je suis désolé, il faut arrêter de tout spiritualiser. Parce que moi, je vois des gens qui sont très spirituels, mais ils ne sont pas pragmatiques. Ils ne sont pas intellectuels, ils ne sont pas intelligents, je veux dire. Actuellement, vous n'êtes pas qu'un pur esprit. Actuellement, nous sommes un corps, nous sommes un intellect. Et il faut jouer avec. Et si vous, ne croyez pas intellectuellement, ben votre esprit, il est hors jeu. Parce que si vous ne croyez pas intellectuellement, vous croyez bêtement. Il n'y a pas trois possibilités. La foi, on vient de le lire, vient de ce que l'on comprend. On va me dire, non Michel, ce n'est pas écrit comme ça. C'est écrit, vient de ce qu'on entend. Oui, ça c'est vrai. Ah, vous avez bien raison de me le dire. Mais moi je vous dis quand même, la foi vient de ce qu'on comprend. Une petite parenthèse. Je parlais avec mon frère Victor Escroignard, c'était déjà la semaine passée, ça passe vite. Et alors, lui, il a appris l'hébreu, c'est formidable. Le moindre mot, ça y est, il me donne une signification, c'est génial, c'est formidable. Et moi, ça aurait été mon rêve, et je sais que c'est le rêve de beaucoup de chrétiens, de pouvoir lire la Bible dans le texte hébreu ou dans le grec. On se dit, ah, si seulement je pouvais lire dans le grec ou dans l'hébreu, eh bien, je serais beaucoup plus spirituel parce que c'est tellement plus près de la réalité. Et ça, c'est vrai, c'est certain. Mais dis donc, je pense quand même qu'avant de vouloir lire le grec et l'hébreu, c'est quand même bien de la lire en français, votre Bible. Et le français, c'est une langue très riche. On dit toujours, ah, l'hébreu, oui. C'est vrai que c'est une langue très riche, mais il faut arrêter. Le français, c'est aussi une langue très riche. Maintenant, je vais vous lire le même texte là qu'on vient de lire dans Romains 10, 17, dans la langue de Molière. Voilà ce que ça donne. Première nuance, la foi vient de ce qu'on perçoit par l'ouïe. Ça, c'est la première nuance. Première entendre, c'est ce qu'on perçoit par l'ouïe. Vous êtes d'accord? Deuxième nuance. La foi vient dans la mesure où on écoute attentivement. Ah, déjà, ce n'est pas simplement entendre comme quand vous êtes en train de faire la lessive ou le repassage, et puis vous entendez la radio qui marmonne. Il y a eu 3 millions de grévistes selon la CGT, mais il n'y en a eu qu'un million d'après le président de la République. Mais vous l'entendez, mais vous ne l'entendez pas, vous n'écoutez pas attentivement. De façon. Troisième nuance, la foi vient de ce qu'on recueille du témoignage de la parole de Dieu. Quand quelqu'un est là pour témoigner, par exemple, vous avez vu un accident, eh bien, on vous entend. La police va vous entendre, c'est-à-dire qu'elle va recueillir votre témoignage, elle va recevoir votre témoignage. Quatrième nuance, la foi vient quand on consent à suivre le conseil de la parole de Dieu. C'est dans le mot « entendre », c'est une des nuances du mot « entendre ». On dira par exemple « il n'a rien voulu entendre », ça veut dire quoi? Ben, il n'a pas voulu du conseil qu'on lui a donné. Vous comprenez? Voilà. Vous voyez la richesse de la langue française, la foi vient de ce qu'on entend? C'est-à-dire, la foi vient quand on veut bien recevoir, quand on est consentant à suivre le conseil de la parole de Dieu. Sinon, la foi, ça ne marche pas. Si vous n'êtes pas consentant au départ. Cinquième nuance, la foi vient de ce que l'on saisit, c'est-à-dire de ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Sixième nuance, la foi vient quand on veut bien comprendre ce que la parole de Dieu dit. On dira par exemple, il ne veut pas entendre raison. Vous voyez le mot entendre? Septième nuance, la foi vient de la conscience complète de la parole de Dieu. On va dire, par exemple, d'une personne, elle n'entend rien à la mécanique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas cet état d'esprit au sujet de la mécanique. Et la mécanique, c'est quoi? Ben, il faut avoir une vue d'ensemble sur le truc. Sinon, si vous regardez juste le petit piston qui est... Et puis, ben, vous n'entendez rien du tout à la mécanique. Il faut avoir une vue d'ensemble sur la chose pour voir comment ça fonctionne. Sinon, vous n'y entendez rien. Ça ne veut pas dire que vous n'entendez pas quand la mécanique tourne. Ça veut dire que vous n'y comprenez rien. Huitième nuance, la foi vient de la volonté, de l'intention qu'on a vis-à-vis de la parole de Dieu. Ah. Par exemple, on va dire, j'entends que tu m'obéisses maintenant. Est-ce qu'on ne dit pas ça? Non, on ne le dit plus. Parce que maintenant, on parle par onomatopée. Voilà. Mais ce n'est pas ça, là, le vrai français. Hein? D'accord? J'entends qu'on m'obéisse. Ça veut dire quoi, j'entends? Vous voyez, entendre, ça signifie beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bien plus simplement que de s'asseoir pour écouter une prédication le vendredi soir à la chapelle du château, au sanctuary, ou devant votre ordinateur, ou devant votre télévision en train de regarder la vidéo. Pour bien comprendre la parole de Dieu, mes frères et sœurs, vous devez décider volontairement de bien vous entendre avec elle. Ah, entendre, encore une signification. Vous devez bien vous entendre avec la parole de Dieu. C'est-à-dire vous accorder avec la parole de Dieu. Il ne faut pas la lire en disant « oui, mais moi je pense que… » Non, non. On n'a pas le droit de penser que quand on lit la parole de Dieu. Sinon, ça devient de la religion, des interprétations et des choses comme cela. Voilà d'où vient la foi, mes frères et sœurs. Et je pense qu'on peut tous dire « Amen », on est sûr que c'est vrai. On peut dire « Amen » ou alors on peut dire « Ok, Michel, ça s'entend parfaitement. » C'est-à-dire, c'est évident. Vous voyez le mot « entendre », toutes les significations qu'il a. La foi vient de ce qu'on entend dans la parole de Dieu. Oui, d'accord. J'ai été posé moi derrière toute ma vie dans l'église, et c'est bizarre, j'ai entendu la parole de Dieu plein de fois, mais je n'ai pas la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes ces nuances. Il y a toutes ces nuances. Il ne suffit pas d'écouter simplement. Tout à l'heure, je vous disais, vivre par la foi. Vivre par la foi, ce n'est pas tout comprendre, je vous disais. Mais alors, là, il me semble qu'on se contredit. Non, on ne se contredit pas. Parce que ce n'est pas tout comprendre au sujet de notre situation, mais c'est comprendre la volonté de Dieu. Et je vous explique exactement de quoi il s'agit là. Quand on comprend la volonté de Dieu, on peut s'appuyer sur lui. On peut avoir une paix, on peut avoir une tranquillité, on peut avoir une assurance. Quand on comprend quelle est la volonté de Dieu. Comprendre la volonté de Dieu, ce n'est pas forcément comprendre ce qui nous arrive. Trop de chrétiens se posent des questions, mais pourquoi ça m'arrive? Enfin, quand même, je ne veux pas dire que j'ai fait beaucoup de choses pour le Seigneur et que je mérite quoi que ce soit, mais quand même, il me semble que ce n'est pas normal que ça m'arrive, ça. Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Une personne qui a la foi, elle comprend simplement ce que Dieu veut, elle le fait. Je vous explique. Je vais vous donner pour vous expliquer un témoignage. Un témoignage, j'ai entendu hier. Je vous le raconte. Laissez-moi vous raconter. Qu'est-ce qui est arrivé à Raphaël il y a 12 ans. 12 ans. Il y a 12 ans, son petit-fils était gravement malade et il était à l'hôpital et il était mourant. Tout à coup, le téléphone sonne et on dit à Raphaël, venez tout de suite à l'hôpital parce que l'enfant est à la fin, il ne va pas vivre plus d'une heure. Raphaël, il saute en bas de sa roulotte avec sa femme Violette, et il rentre dans la voiture et il fonce, et c'est en mettant les pieds sur l'accélérateur qu'il se rend compte qu'il a oublié de mettre ses chaussures, il est nu-pied. Ils arrivent à l'hôpital, aux urgences, pas aux urgences, aux soins intensifs, et ils rentrent là, ils voient l'enfant qui est complètement, il est en train de partir. Vous savez, il y a une petite machine qui fait les pip, pip, avec pour le cœur, ben, ça faisait presque plus, c'était presque plat. Comment on appelle ça, Cheryl? L'électro... encéphalogramme, presque plat. Et voilà que le professeur qui s'occupe du gamin rentre là-dedans et il voit Raphaël tout dépnaillé, il était dans sa roulotte, il n'était pas bien habillé, avec une grosse tache de ketchup ou je ne sais pas quoi, enfin bon, et avec pieds nus, et puis il se fout en rogne, il l'engueule, il lui ordonne de sortir de la pièce immédiatement. L'enfant était inconscient, l'appareil montrait que c'était presque plat. Et soudain, Raphaël, il interrompt le médecin qui était en train de l'engueuler et lui dit « Je suis un serviteur de Dieu ». Regardez! Et il pose sa main sur l'appareil, au nom de Jésus! Et voilà que l'encéphalogramme, ça redevient normal. Instantanément, le médecin, complètement soufflé, dit, c'est un miracle, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout? Rien de plus, l'enfant était guéri, l'enfant s'est bien toussé, s'est réveillé, c'était formidable, c'était un miracle. Mais voyez, Raphaël connaissait la volonté de Dieu. Pas la volonté de Dieu au sujet de l'enfant, ou la volonté de Dieu au sujet de l'hôpital, ou au sujet du médecin, ou au sujet de ses pieds nus, au sujet... Non, non, non. Il connaissait la Bible qui dit que Jésus a porté nos maladies sur la croix et il a pris autorité. Il a fait un geste de foi. Le temps passe, 12 ans. Et la semaine passée, Violette, vous savez, la caravane commençait, elle vit dans des roulottes, c'est des gitans. Elle veut descendre du lit... Et comme elle était du côté du mur, elle passe par-dessus Raphaël, elle a 80 ans. Elle se prend les pieds dans le drap, elle tombe la tête la première en bas du lit, elle se casse un bras. 80 ans. Sa petite fille l'emmène aux urgences immédiatement. Lui, Raphaël, il boite, il est tellement en ce moment pas bien, à 80 ans, qu'il ne pouvait pas se dépêcher et sauter dans sa voiture, même pieds nus. Donc c'est sa petite fille qui l'a emmené à l'hôpital. Le médecin passe aux urgences, il regarde Violette, elle sortait du lit, excusez-moi, pas très bien, pas très présentable, elle était juste avec un petit peignoir, ses cheveux défaits, vous voyez comment elle est Violette, hein. Et puis elle pleurait. Le médecin la regarde du haut de sa grandeur et de ses diplômes et de son intelligence, méprisant cette pauvre vieille gitane là qui a son bras cassé. Mais franchement, ça s'est passé comme ça. Et puis il s'en va. Il la regarde, mais il ne la touche pas, il ne fait rien. Quatre personnes arrivent les unes après les autres, et les unes après les autres, ils sont pris par le médecin, soignés correctement, très bien. Et puis Violette, toujours là, à gémir, en se tenant le bras, en pleurant et tout. Le médecin ne s'en occupait pas. Alors, la petite fille de Raphaël commence à engueuler le médecin, à lui dire, enfin, vous vous fichez de nous, vous vous rendez compte, cette personne, elle a 80 ans, elle souffre, vous n'en occupez pas, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, Raphaël arrive, rentre dans la salle d'attente, là où est Violette, et le médecin qui était en train de s'enguirlander avec la petite fille, et tout d'un coup, le médecin, il se tait. Il voit Raphaël, il dit, mais vous, je vous connais. Mais un peu plus de 10 ans, vous avez mis votre main sur un appareil, il y avait un enfant qui était mourant, et là j'ai assisté à un miracle, mais je vous reconnais, vous. Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous avez? Bon, Violette, sur ses entrefaits, elle se lève, c'est qu'elle a 80 ans, mais elle n'a pas perdu du tout sa tête, ni sa foi, ni son intelligence spirituelle, et dit, monsieur le docteur, je vous demande pardon pour ce que ma petite fille vous a dit, mais vous savez, elle n'est pas très bien convertie. Alors nous, les enfants de Dieu, on aime tout le monde, et quand on nous tape sur la joue gauche, on tend la joue droite. Mais elle n'est pas très bien convertie, alors elle vous a parlé comme ça. Mais n'empêche quand même qu'elle avait un peu raison. Parce que vous êtes quand même... Je suis une vieille femme, je souffre, et vous n'êtes pas occupé de moi. Et vous m'avez mis de côté, vous avez méprisé mon cas. Mais je vous pardonne, je vous pardonne. Je vous pardonne de tout mon cœur. L'homme s'est excusé, il a pris soin d'elle, ils ont fait des radios, il lui a mis le plâtre. Il est tout au petit soin pour ma Violette. Et il est en train de s'approcher de Dieu et il est en train de se convertir. Il doit venir au culte dimanche. Amen. Voilà, Violette, elle savait quelle était la volonté de Dieu et puis elle l'a fait. Elle s'est excusée, elle a repris, elle a pardonné, elle a témoigné et voilà. C'est ça la volonté de Dieu. Hier, elle m'a dit, maintenant je sais pourquoi il a fallu que je me casse un bras. C'était pour le salut du docteur. Parce qu'il avait vu un miracle 12 ans avant, il était quand même resté dans le monde, mais maintenant, Dieu l'a retrouvé, et grâce à mon bras cassé, maintenant j'ai pu lui témoigner. Vous voyez, elle ne s'est pas lamentée sur son cas, disant, mais pourquoi ça m'arrive à moi, Seigneur, je ne comprends pas. Elle a fait la volonté de Dieu, qui est que nous rendions témoignage en toute occasion, favorable ou non. 2 Timothée 4, 2. Alors, favorable ou non, ça veut dire dans nos moments favorables ou non. Pas dans les moments favorables extérieurs, mais dans nos moments favorables ou non. Peu importe ce que vous vivez, peu importe que ce soit bon, que ce soit pas bon, que ce soit difficile, que ce soit épouvantable, en toute occasion, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. En toute occasion, favorable ou non. À quoi ça sert ce présent? À quoi ça sert ce cadeau que Dieu nous fait? À quoi sert ce moment présent, ce moment cadeau que Dieu nous fait? Eh bien, il nous sert à aimer les gens, à leur dire ce que Dieu a fait pour eux. Voilà à quoi ça sert. C'est là principalement la volonté de Dieu à notre égard. C'est que nous soyons des témoins. Voici, je vous remplirai de mon esprit, je vous baptiserai dans mon esprit, afin que vous soyez mes témoins. C'est ce qui est le plus important dans la vie d'un chrétien. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez retomber toujours dans les mêmes difficultés, jusqu'à ce que vous compreniez, dans ma difficulté, il faut que je trouve moyen de témoigner, et non pas de rouspéter, de râler, de gémir, de pleurnicher. Amen. Michel, t'es dur. Oui, pardon. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Et puis après ça, c'est la volonté de Dieu principale, mais après il y a tous les détails. Comment parler, comment manifester la sagesse, comment manifester l'amour, comment être pratique. Il y a tant de choses qu'on peut faire dans tous nos moments présents qui se présentent, n'est-ce pas? Et la Bible parle de tout ce que nous pouvons faire, de quelle manière nous pouvons le faire. Croyez que ce qu'elle dit à ce sujet, c'est pour vous qu'elle le dit, c'est à vous qu'elle le dit. Et faites tout ce que votre main trouve à faire avec la force que vous avez. Je n'ai pas de force. Si, tu as la force. Tu as le Saint-Esprit en toi qui est ta force. Mais si le Saint-Esprit en toi, tu ne le laisses pas agir et que tu agis que par ta propre force, c'est vrai que ça s'use vite et tu peux dire « je suis sans force ». Mais si tu es un enfant de Dieu qui prie, laisse le Saint-Esprit agir, c'est lui ta force. Et fais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans Ecclésiaste 9, 10, comme ça maintenant vous êtes sûr que c'est un verset biblique et que ce n'est pas simplement une idée à Michel Jonton. D'accord? Parce que, mes frères et sœurs, perdre l'instant présent, perdre son temps, perdre l'instant présent, laisser passer les occasions, perdre l'instant présent, c'est perdre le cadeau de Dieu. C'est perdre la présence de Dieu. Perdre le moment présent, c'est un véritable problème pour beaucoup de chrétiens. En fait, le problème est le suivant. Qu'est-ce que c'est le problème de celui qui perd son temps? Celui qui perd son moment présent, il est en train de vivre une illusion au sujet de la réalité, des situations, des circonstances ou des émotions qu'il peut ressentir. Il vit une espèce d'émotion qui se transforme en souffrance supplémentaire. Vous voyez? C'est pas obligé. On n'est pas obligé de rajouter ça encore par-dessus le marché. Perdre le moment présent, c'est perdre l'être. Dieu dit « je suis ». C'est perdre Dieu, perdre le moment présent, parce que Dieu, il est dans le présent. C'est ne plus progresser par la foi, c'est chercher à se débrouiller sans Dieu, au moyen des possibilités humaines. Nous avons des possibilités humaines, c'est vrai, mais c'est quand même beaucoup, c'est quand même très limité. Et c'est une illusion de penser qu'on va arriver à résoudre nos problèmes simplement humainement, parce que la Bible nous dit que sans Dieu, rien n'est possible. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Il va me dire, oui, mais il y a plein de gens qui sont sans Dieu, puis qui font des tas de choses. Parce qu'à preuve du contraire, c'est quand même les sans Dieu qui ont inventé le train, les avions, la télévision, toutes ces choses extraordinaires. Les bombes aussi. À quel prix est-ce qu'ils arrivent à faire les choses sans Dieu? Ils ont des façons de faire, les sans Dieu, qui leur permettent de gagner le monde peut-être. Et Jésus dit, à quoi cela vous sert-il de gagner le monde si vous perdez votre âme? Si vous perdez votre être. Vous comprenez pourquoi je vous dis, perdre son temps présent, c'est perdre la présence de Dieu, c'est ne pas manifester la foi, c'est perdre son âme. C'est grave de ne pas être conscient du temps présent et de la volonté de Dieu qu'on peut faire dans le moment présent. Comprenez-vous pourquoi je vous dis ces choses ce soir? Ne pas perdre votre âme. Les choses importantes, ce n'est pas les choses qu'on voit. Les choses importantes, elles sont invisibles. Et par notre foi, nous les faisons sortir du monde de l'invisible, et nous les rendons visibles. Et puis on passe aux choses suivantes. On passe aux choses suivantes. Alors marchez, comportez-vous par la foi et non pas par la vue. Ce que les yeux voient a beaucoup moins de valeur que ce qu'ils ne voient pas. Voilà pourquoi Jésus dit « marchez par la foi et non pas par la vue ». Ça peut rester une très jolie phrase, comme la phrase « la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ ». Ah oui, mais quand on approfondit la signification de cette chose, c'est véritablement une nourriture pour notre âme, pour notre être, qui se trouve renouvelée par cette même parole que nous entendons, que nous décidons de prendre intellectuellement, volontairement dans notre cœur, afin de la serrer en nous-mêmes, pour ne pas pécher contre Dieu. Amen. Amen. Jésus, je te prie de bénir ces quelques mots que j'ai dit à mes frères et sœurs, et si ça a été trop vite, eh bien, qu'ils puissent réécouter ce message qui est enregistré et qu'ils puissent prendre des notes et réfléchir, parce que méditer, c'est réfléchir. Réfléchir au sujet des choses qui te concernent et rentrer dans la gratitude parce que tu es un grand Dieu qui veut de grandes choses pour chacun d'entre nous. Et nous ne sommes pas éprouvés au-delà de nos forces. Merci Seigneur Jésus de nous le rappeler aussi ce soir. Oh, merci mon Dieu, parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent des choses terribles. Mais quand tu dis que nous ne sommes pas éprouvés au-delà de nos forces, je te crois. Je crois ce que tu dis. Et je crois que tu es là aussi pour donner la force à ceux qui en manquent momentanément. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen.